Auditrice, auditeur, salut, et si on ne vous l'a pas encore assez dit, bonne année 2025, vous êtes dans la première des échos du charbon, le meilleur du live toute l'année, avec tous ceux et toutes celles qui le font, ce live au Café Charbon. Aujourd'hui, on va vous parler justement d'un live qui n'a rien à envier aux autres, et pour cette première teintée du meilleur du monde anglo-saxon, salut Gemma, salut Cédric.
Ah, hello.
Et bonjour.
Vous formez le duo pop Déjanté Gemma and the Driver, vous serez au Charbon ce jeudi, à l'occasion de la sortie de votre deuxième album, Juge, Jury, Bourreau, réalisé à partir d'un crowdfunding, si je ne me trompe pas.
Tout à fait, ouais. Ouais.
Enfin, en partie, quoi.
En partie, ça a un peu explosé les compteurs ou pas?
Ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Le crowdfunding, c'était pas pour nous permettre de faire l'album. L'album, il était déjà dans les, il était déjà prévu et on avait déjà commencé à le produire. C'était plutôt pour la fin de la production,
okay.
Pour la partie pressage, puisque pour nous, c'était important de produire un disque physique et de faire des beaux vinyles. Et,
c'était aussi moyen de regarder qui voulait quoi en 2025. Qui commande quoi encore? Est-ce que c'est encore intéressant de produire des vrais
disques? Faire du physique?
Oui, voilà.
Ouais. Et alors, c'est quoi la réponse?
Le vinyle, toujours en mode.
Le vinyle, la bonne cote.
Oui, toujours.
Oui, on vend encore un peu de disques, même si c'est pas, c'est pas des chiffres faramineux, mais...
Ouais.
Ouais, il y a encore... ça a encore...
Moi, ça me fait plaisir parce que...
C'est ça que je voulais savoir. Je voulais savoir si ça vous surprenait ou pas, un soutien du public.
Le soutien du public, alors... Autant
savoir qu'ils vont acheter un objet physique que vous avez produit.
Mais ça m'a rassurée parce que c'était un rêve d'enfance de produire une galette, une vinyle. Et le public qui sont encore dans l'optique de soutenir les artistes locaux, c'était vraiment un grand plaisir. Même si on sait que c'est de plus en plus difficile de rentrer en communication avec les gens parce qu'on est tous, et c'est un peu le thématique de beaucoup de nos chansons, c'est difficile de encore connecter l'un les autres avec l'immensité de toute l'information qu'on reçoit tous les jours.
Mmh. Et vous aviez déjà sorti un album en 2020, si je ne me trompe pas.
Oui.
Donc là, ça fait 4 ans. Depuis, vous vous êtes doté d'un entourage pro, d'après ce que j'ai cru comprendre.
Il y a plein de choses qui s'est passé entre
on a tiré le fil, quoi.
Il y avait une peste mondiale.
Il s'est passé plein de choses. Et c'est vrai que le premier album, nous, on l'a sorti juste avant le Covid. Donc, évidemment, ça n'a pas été le développement qu'on avait prévu. Quoi.
C'est ça. À chaque fois qu'on dit qu'un album sort en 2020, d'un coup, on a un vieux relent.
Voilà. Nous, on avait sorti le 14 mars. Donc, c'était parfait. Quoi.
Ouais. Et, ça t'a dit que c'était la date de premier confinement.
Mais en fait, toute cette période bizarre, là, les 2-3 ans du Covid, nous, en fait, comme beaucoup d'artistes en France, en fait... On est sur des petites formules, on bouge beaucoup, on tourne beaucoup, on gagne notre vie essentiellement par les concerts.
Et on vit en campagne, donc on n'a pas été trop... On était pas trop mal.
Oui, je pense que...
Beaucoup d'autres personnes, on avait beaucoup de la chance.
Et honnêtement, le Covid, je pense que ça a été beaucoup plus compliqué dans les grands ensembles urbains. Mm-hmm. Et même au niveau de la culture, en campagne, en fait, pour nous. Alors oui, on a un peu moins bien travaillé en 2020. Mais dès la fin de 2020, dès début 2021, on commençait à déjà remonter des tournées. Et dès 2022,
ça
on travaillait comme
quoi.
Avant, même mieux. Même mieux, en fait. Voilà.
Et du coup, depuis, vous êtes entouré un petit peu professionnellement. Qu'est-ce que ça change pour vous en tant qu'artiste indé, en tant qu'artiste émergent?
Je pense que c'est la suite logique un peu de chaque d'année en année, il y a la couche d'évolution, tu vois, qui...
C'est du développement, de pouvoir mieux travailler. En fait, le truc sur lequel on est quand même assez d'accord avec Gemma, c'est qu'on a envie d'aller vers toujours pouvoir mieux travailler, oui. mieux créer. Et c'est vrai que, voilà, bon, alors, pour parler de choses plus terre à terre, on est des artistes indépendants, on n'a pas de sub, on a donc, en gros, tout ce qu'on réussit à développer, bah, c'est par notre travail, c'est parce qu'on tourne bien, parce qu'on vend un peu de disques, et puis on investit beaucoup sur notre travail, oui. et en gros, on prend des risques, hein, c'est-à-dire là, par exemple, on travaille avec une chargée de diff. Parce que ça, on n'en parle jamais, mais les trois quarts des artistes indépendants font aussi leur booking, font aussi leur production, oui, voilà. font aussi leur communication. Mais le problème, c'est qu'il y a un moment où il n'y a que 24 heures dans une journée. Nous, en plus, ben, on commence à faire partie des gens qui ont des gosses, qui ont des maisons. qui ont,
et, pas ensemble.
Tu vois,
hein,
non, pas ensemble. Donc, ça multiplie les
ça
problèmes.
Regarde
en plus,
pas.
Tu vois.
Donc, du coup, être entouré de cette.
Disons oui, qu'il y a un moment.
Être entouré de professionnels, ça vous.
Ça te donne du temps.
Ça vous donne plus de temps
pour voilà.
l'artistique aussi.
Oui. Voilà. En fait. Parce qu'il ouais. y a un moment, alors moi, je connais bien ça, parce que ça fait 25 ans que je fais ça, ou 20 ans. Mais il y a un moment où c'est très frustrant parce que ce qui te fait gagner ta vie, c'est de faire des concerts. Tu as besoin de gagner ta vie, de tourner. Mais après, il y a un moment où tu relèves la tête et tu te dis, mais ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas posé pour écrire des nouveautés.
C'est
pour...
ça.
Et on fait aussi ce métier parce qu'on a envie de créer. Nous, on fait de la création, c'est-à-dire on a besoin régulièrement de remettre en jeu ce qu'on a fait avant.
Oui.
Et de se mettre en danger, de chercher des nouvelles choses qui
même,
nous font kiffer. Qui nous,
ouais, et même sans parler de le côté artistique, de créer, d'être artiste, ça oblige déjà tellement autre chose, autre que juste écrire. Il y a aussi le côté scénique, il y a aussi le côté relationnel.
J'allais y venir au côté scénique.
Il y a tout, quoi.
Parce
donc,
que ouais. le côté scénique, vous le développez vraiment, vraiment pas mal. En fait, enfin, il y a tout cet aspect, toute cette fibre spéciale pour le live, hein, les costumes,
les décors. On peut pas faire autrement parce qu'on est des.
C'est ce qu'on a envie de faire.
Ouais.
C'est ce qu'on a envie de faire.
Ouais.
Moi, quand on me demande qu'est-ce que c'est Jemaine the Driver, je dis, moi, c'est.
De toute façon, moi,
c'est du spectacle vivant. On a envie de faire un méga show, mais à deux, parce que. Pour peut-être un jour on sera plus nombreux, mais parce que techniquement, ben, c'est comme ça qu'on peut le faire de façon libre et où vraiment la création, c'est la priorité.
Je ne peux pas m'empêcher, de toute façon, depuis j'ai 5 ans, dès qu'il y a un peu de monde à la maison, je mets un costume et je fais le petit pestacle.
Mais c'est marrant parce que bon, j'aime pas ramener les gens à ça, mais... je trouve que c'est une énorme influence anglo-saxonne, le spectacle sur scène. Enfin,
est-ce que c'est étonnant, si vous écoutez mon accent
Alors oui, c'est pour ça que je ne voulais pas forcément te ramener à ça. Mais au-delà de cette influence anglo-saxonne, est-ce qu'il y a encore d'autres influences qui font que la scène et le spectacle, c'est ça que vous voulez faire?
C'est un moment tellement génial. Quand t'es, y a un côté... C'est un moment de partage, de partage d'énergie, mais il y a un truc sur lequel on est un peu pareil avec Gemma, c'est que ça commence par de la générosité.
Ouais.
Si tu montes sur scène, tu commences par donner quelque chose. Après, tu reçois. Et quand tu commences à goûter à ça, c'est ça la partie magique du spectacle.
Mmh.
C'est pas qu'il y ait beaucoup de monde, que les gens hurlent, qu'ils crient tellement fort que tu t'entends plus jouer.
C'est ça,
on s'en fout. Enfin, c'est pas on s'en fout, mais c'est pas ça qui va te faire vraiment vibrer. Par contre, ce moment où tu sens que les gens ils sont heureux grâce à ce que tu leur envoies, et du coup en face ils t'envoient beaucoup plus que juste du regard.
Oui, un regard.
Toi, c'est une énergie qu'on reçoit c'est génial.
Je dois dire qu'on ressent quand même énormément ça en plus quand on vous voit sur scène parce que vous êtes très humble en fait dans ce que vous faites.
Ah.
Et en même temps, c'est grandiloquent quoi. Donc c'est marrant parce que
oui,
c'est un énorme show.
Oui, je suis très humble, je suis connue, je suis super connue.
C'est vrai que t'as enlevé tes lunettes noires pour
l'interview. I'm grateful for everything.
Non mais pour rebondir...
En fait, vous êtes très proche du public.
Oui.
Et en fait, c'est qu'on a souvent fait un mauvais... une mauvaise interprétation du spectacle, c'est que le spectacle séparait l'artiste du public forcément. Mm. Alors que pas forcément, enfin, vous êtes toujours aussi proche du public.
Ben c'est le but, et je pense que pour rebondir sur la question avant aussi, qui rejoint, moi personnellement, j'ai fait des spectacles depuis j'ai 5 ans, en fait c'est pas que en milieu personnel, juste dans ma chambre, en fait dès qu'il y avait la possibilité de me rattacher à un truc de cirque, ou de, tu vois, j'avais soif pour l'art, pour faire la scène dans toutes ses formes, d'apprendre tout, même technique, et voilà tout. Et là, un peu, quand tu arrives à l'adolescence et tu commences à faire les choses un peu plus sérieusement, et après, plus tard, quand on commence à travailler dans les compagnies avec des directeurs artistiques, tu as un peu le tête dans le guidon, toujours la prochaine spectacle, mon art, je peaufine, le technique, voilà. Et au bout d'un moment, je me suis un peu arrêtée avec une vaste panorame d'expériences de différents types de spectacles, de la comédie musicale à des trucs hyper contemporains, à des trucs très commerciaux, tu vois, tout ce panel-là. Et en fait, j'adore, dès que j'ai appris un truc, j'ai envie de monter le bar plus haut et essayer autre chose, parce que c'est la chasse chasse pour la perfection qui m'intéresse. Mais quand j'ai arrivé, j'ai envie d'aller plus haut, j'ai envie de faire autre chose. Ok, ça j'ai fait, maintenant c'est quoi la prochaine? Et au bout d'un moment, tu arrives à un moment où c'était à moi de créer, c'était à moi de décider, ok, maintenant, c'est à moi de dire ce que j'ai envie de dire, c'est à moi d'être le sujet, de raconter quelque chose, d'être la raconteuse, qu'est-ce que j'ai envie de dire. Et là, c'est facile de tomber dans le guet-apens, de dire, ok, un artiste doit être impliqué, doit avoir un truc à revendiquer, qu'est-ce qu'on revendique? Et là, je dis, non, ça sonne pas, en fait. J'ai pas envie d'être quelqu'un qui dit aux gens ce qu'ils doivent penser ou pas penser. J'ai pas envie d'être là parce que je suis féministe, ou être là parce que je suis... J'ai pas envie d'avoir une polémique, forcément, sur scène. J'ai envie de raconter la vie aux gens. Et si j'ai un truc à revendiquer, c'est la vie, c'est l'extravagance, on a quand même la chance de faire un métier incroyable, et du coup j'ai envie de célébrer ça, quoi. J'ai envie de qu'est-ce qu'on peut créer avec tout ce qu'on a, et qu'est-ce qu'on peut faire qui va donner un moment de magie, qui va m'émerveiller moi, et en espérant que ça touche les gens et ça les amène avec nous. Je sais pas si ça a été très succinct,
mais limpide.
mais sur ce sujet-là, justement, la versatilité du live, parce qu'en fait, vous faites des scènes très différentes. Il y a des scènes qui sont plus petites.
Oui, on est des artistes tout terrain.
Un petit peu plus grandes. Exactement. C'est-à-dire que parfois, vous pouvez faire un concert qui ressemble à un concert dans un club jazzy de Paname, et puis le lendemain, vous avez une scène où vous pouvez faire comme si vous étiez des stars de comédie musicale au West End, quoi.
En passant par le fait à la saucisse, en fin de fond de creuse.
Dans des jardins en acoustique aussi.
Ouais, voilà.
Mais c'est génial aussi, d'ailleurs.
Mais justement, enfin, vous arrivez à vous adapter à tout ça?
En fait, je pense que Cédric, il a tout dit. Nous, on aime les gens. On aime connecter avec les gens. Et le public, moi, ce qui me fait kiffer, c'est le mec seul au fond de jardin qui en a marre, qui a rien à foutre. J'ai envie d'y aller vers lui. J'ai envie que lui, il s'intéresse à nous.
Celui qui est dans sa voiture là, qui est pas du tout intéressé par l'interview.
Ouais, non, mais à la fin de l'interview, il va nous écouter. Enfin,
il va venir demain soir.
Je sais pas. Non, mais
après,
chaque scène est un nouveau.
Je sais plus qui c'est qui avait dit, mais tant qu'il y a une scène,
challenge.
Il peut y avoir un spectacle.
Oui,
quoi,
voilà.
Tu vois, c'est à partir du moment où justement c'est la scène, ça peut être partout. La scène, c'est la rue, c'est le tu vois, moi j'ai grandi dans l'épicerie familiale et quand je vendais des légumes à 17-18 ans, j'étais sur scène.
Ouais.
C'est pareil, le mec qui est derrière son comptoir dans un bar et qui fait de la psychanalyse 8 heures par jour, c'est un performeur. sur les marchés, t'as des tas de showman fantastique, c'est la vie, c'est un spectacle, de toute façon.
Ouais.
Ah, à part si vraiment tu t'emmerdes et puis que, mais sinon c'est mieux si c'est fun quoi, en fait quoi. Voilà, comme elle disait Gemma, déjà nous si on arrive à passer un super moment pendant une heure et que les gens passent un super moment avec, ils sont contents, tu vois, déjà si ça leur met le sourire et un peu d'étoiles dans les yeux, et ben pendant ce temps là ils sont bien.
Est-ce que le studio, c'est aussi une scène? Est-ce que le studio, on le travaille comme une scène? Forcément pas.
Mais après le... Moi, j'adore le studio. Ouais. Moi, j'aime tout, de toute façon. Je mange de tout. J'adore la
scène.
Fan
de son métier.
J'adore
c'est
le
parfait.
Studio. J'adore marcher dans la campagne. Voilà. J'adore le climat hiverné.
C'est drôle parce qu'il dit ça, mais il arrête pas de râler surtout.
Ben oui, mais
c'est tellement contradictoire, je t'adore.
Mais parce que justement, c'est le principe aussi. voilà, tu réagis, tu dis ah, c'est génial, ah, ça me fait chier.
Tu vis à 200 à l'heure, Cédric.
Mais, je sais pas, j'ai pas l'impression.
Si je devais reformuler, comment vous arrivez à retranscrire vraiment tout cet univers que vous sortez à sortir sur scène en live? Comment vous arrivez à le retranscrire sur des bandes studio? Parce que c'est quand même hyper compliqué.
Ça, c'est, mais je pense que, en fait, pour cet album, on a eu la chance d'avoir un peu plus longtemps dans le studio. Ouais. Et je pense que c'est une pratique comme n'importe quel autre. Donc, t'as les techniques de studio, t'as les contraintes que ça amène. Et après, avec chaque écoute, t'es toujours en train de me dire, est-ce que c'est cohérent avec ce qu'on renvoie sur scène? Parce que non, c'est pas pareil. T'as pas la même énergie, ouais. Mais je me
retrouve. C'est pas le même travail.
Mais quand je suis devant un micro, dans le studio, j'ai quand même tendance à imaginer des gens qui sont devant moi. À imaginer qu'il y a une personne là, parce que j'ai besoin de ça pour créer l'énergie qu'il faut pour que ça vibre, pour qu'il y a l'émotion dans l'enregistrement.
Quand même besoin de la théâtralité.
Je pense, oui. Et ouais. Ça aide quand tu as des gens qui t'aident avec ça. Alors nous, on a la chance d'avoir rencontré Anthony Derrick, notre sensei de son, qui capte notre univers et qui nous comprenne humainement. Donc
ce qu'on appelle un réalisateur artistique, ouais. ou un producteur. Hein. De toute façon, le studio, ce n'est pas du tout le même travail dans le sens où... tu regardes pas ta musique de la même façon. Sur scène, t'es dans l'instant et t'es dans l'interprétation instantanée. Tu cogites moins sur scène. Sur scène, de toute façon,
tu peux pas revenir sur ce que t'as fait.
Sur scène, t'es ce soir et puis demain, ce sera demain soir. Et puis tu vois, le studio, c'est différent parce que c'est un moment où tu enregistres des morceaux que tu travailles déjà depuis souvent un petit moment. Et il y a un moment où il faut accepter que, de toute façon, c'est maintenant, là, tu as décidé que c'est maintenant que tu enregistres. Donc, tu vas fournir le travail que tu es capable de fournir à ce moment-là. C'est-à-dire que si les morceaux, tu as bossé 6 mois dessus, tu as un recul de 6 mois sur les morceaux. Donc, quand tu les réécouteras 6 mois plus tard, il y aura plein de trucs que tu diras. Ah, ben ouais, là, c'est sûr, ça, j'aurais dû faire ça. C'est normal. Et il y a un moment où, au début, les premiers enregistrements que tu fais, c'est très frustrant parce que tu as toujours l'impression que tu aurais pu. Et puis, déjà 3 jours après, tu crois, j'aurais dû faire ça. Alors qu'en fait, ça, c'est le côté pas intéressant. En fait, on s'en fout. Il faut accepter. Moi, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour ces groupes qui par moment, rentraient en studio, faisaient un album en 3 jours parce que il y a un mec qui les avait repérés, qui avait dit « Ce que vous faites, c'est génial !» et qui les mettait derrière des micros, un peu comme le premier album de Nirvana ou ce genre de truc, et où t'écoutes les prises et c'est... c'est génial parce que les mecs, ils ont joué leur musique, quoi. Voilà.
Poser des questions.
Voilà, et ce qui est très difficile en studio, c'est d'arriver à avoir assez de recul, même si tu sais que t'en auras jamais assez, puisque du recul, plus tu prends du temps, plus t'en as. C'est comme ça.
Ouais, c'est ça.
Et tu vois, donc il y a.
Plus tu prends du temps, plus t'as la liberté de cogiter.
Voilà, et puis d'accepter que c'est ce que t'es capable de donner à ce moment-là, mais c'est pas la même énergie, c'est pas la même temporalité. Tu vois, quand tu fais des prises. Tu vas pas rechercher la même chose En studio, il faut que tu puisses te tu vois, au moment où tu... Moi, ça m'arrive souvent, par exemple, de vouloir être moins caricatural en studio. Parce que sur scène, tu vas en faire des tonnes. Alors, les gens, ils vont réagir.
Personnage.
Tu vois, voilà. Sur scène, t'es dans un personnage.
Tu sors ton charisme physique.
Voilà.
Et en plus de ta voix.
En studio, il va falloir quand même que ce soit aussi joli. C'est-à-dire, il n'y a pas que l'énergie. Il
c'est
faut
ça.
Aussi que ça soit propre, que ça soit bien fait. Parce qu'en studio, il y a aussi un côté temporel, économique. En studio, il faut que tu arrives quand même en sachant ce que tu vas enregistrer et en l'ayant travaillé. Parce que sinon, tu peux mettre très très longtemps. Et il y a des fois, tu t'en es pas rendu compte, tu as mis la barre trop haut, tu n'as pas assez bossé. Et puis le truc, tu n'arrives pas à le jouer. Et ça, c'est problématique. Parce qu'en studio, tu as un temps imparti. Tu vois, voilà. Donc là, si le mec qui te regarde
pas,
te dit
quoi.
Non, mais là, tu n'y arriveras pas, et tu vas nous bouffer une journée de travail pour essayer de faire un truc que tu n'as pas assez travaillé, donc que tu ne réussiras pas à bien faire, tu vois, il faut être capable de se remettre en question. Ouais. Voilà, pour que ça soit un bon moment.
Et donc, pour avoir ces deux aspects-là de Gemma and the Driver, il faut que le public il écoute l'album et qu'il vienne vous voir en live. On est d'accord. Ouais.
Ben, je pense que c'est quand même... Il loupe un truc s'il vient pas
ouais,
regarder
ouais,
les
voilà.
spectacles
même,
en live.
À quoi faut s'attendre, là, de toute façon, pour ce jeudi?
Ouh, pour ce jeudi,
oh, qu'on
plein
peut
de
avoir
des paillettes, des étincelles.
On est
des...
parti très, très loin.
Ouais.
C'est ça qu'on veut, là, en
on
ce milieu de janvier.
On est parti très, très loin.
C'était le
ouais.
Monday, là,
ça.
En plus.
Mais
la
moi,
semaine la plus déprimante de l'année.
Ah,
on a besoin de paillettes.
Ah là, oui, on va nous jeter les paillettes dans les yeux, les gens.
C'est exactement ce qu'on veut.
Alors après, c'est le grand écart permanent. De toute façon, on a fait un album où on n'a vraiment pas du tout réfléchi au
vous
côté...
Aimez pas, vous aimez pas la musique rock, c'est pas grave, on a autre
grave.
Style. Vous aimez pas le folk, c'est pas grave.
Faut,
on a... Oui, voilà.
Vous êtes sur... En fait, il y a 1000 scènes possibles demain soir.
Oui,
n'inquiétez pas. Il y aura tout ce que vous
c'est
aimez.
C'est 10 spectacles en
un. On
en
ne
fait.
Sait rien interdit, absolument rien.
Ouais. Ouais.
Merci Gemma, merci Cédric. On va retrouver votre... pop, rock, enfin tout du
tout
coup, complètement fou sur scène au Café Charbon ce jeudi 23 janvier. Ça sera à partir de 18h30, du coup c'est en format after work. Donc
oui.
Franchement voilà, il y a juste à prendre
ouais.
la voiture et à se rendre au Café
c'est
Charbon.
Voilà.
Le concert commence à 19h.
Et même après, il peut boire un coup avec nous
voilà.
parce qu'il y aura
en plus...
le super méga DJ Fisto qui va tourner des disques après.
Fisto, on l'a déjà entendu plusieurs fois au Café Charbon. Les billets sont à prendre sur www.café-charbon-nevers.com ou sur place le soir même. L'album Juge Jury Bourreau paraît ce vendredi, si je ne me trompe pas. Et en attendant du coup de vous voir sur scène, on va écouter tout maintenant. J'allais le faire. Premier extrait de cet album. Les gars, les filles, tout le monde, sortez en concert. On se retrouve jeudi au Café Charbon. Salut.
Peace.
Très vite.
Je contemple l'incendie dans notre histoire. Se lise les conséquences cruelles. Par la faute se justifie du faste et des flashs qui crépitent. Que je le fasse ou pas, est-ce que tu resteras? J'allais le faire, mais tu ne veux pas d'enfant. J'allais le faire, mais tu ne veux pas d'enfant. Tâche de prouver tu es moi quand son cœur est loin de moi. Sentez ni ta robe, je vois l'avenir. Les cartes sont pas très beaux. pas d'enfant.